Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Au sommaire, donc, pour évoquer le programme des semaines à venir et la situation de son théâtre, Julien Poncet sera le premier de nos invités, le premier des invités des Good Gone cette semaine. Guillaume viendra accompagné de Zim, Gaël parlera vinyle et du musée de l'imprimerie et de la création graphique, et nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Julien Poncet, merci d'être notre invité cette semaine sur le plateau de G comme Odéon. Merci aussi de nous accueillir ici dans votre théâtre, la Comédie Odéon. On est toujours très contents de revenir au port d'attache après avoir été se balader au festival Peinture Fraîche il y a quelques semaines. La semaine dernière, je parlais avec Philippe Cobert. J'étais ravie de le rencontrer ici dans les coulisses du théâtre. Il vous remerciait justement de l'avoir invité à passer un mois avec Alphonse Daudet et ses fameuses Lettres de Montmoulin. J'ai l'impression que le théâtre privé sert aussi à ça, c'est-à-dire de faire entendre des grands textes, de permettre au théâtre contemporain et à des artistes peut-être moins reconnus par le théâtre dit officiel ou dit subventionné en tout cas, d'être présents sur la scène.
Alors d'abord, merci et c'est tout un plaisir pour nous également de vous accueillir ici chez nous. Alors pour Philippe Cobert, j'entends bien qu'il est ici aujourd'hui au théâtre Comédie Odéon, dit théâtre privé. D'abord, il est dans un théâtre. Avant d'être privé ou public, un théâtre, c'est un théâtre. C'est une scène avec des comédiens, un metteur en scène, du public, des gens qui ont besoin et envie de communier ensemble autour d'un texte, d'un sujet, d'une émotion. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être privé ou public. Après, il se trouve que le théâtre public développe effectivement ses réseaux d'artistes, est un théâtre aussi ouvert à la création, à la recherche et permet à de nombreux artistes de faire carrière. Et le théâtre privé ne se construit pas en opposition, c'est simplement que l'État ne peut pas tout, que la culture officielle ne peut pas tout et qu'effectivement on a aussi besoin parfois de jouir de notre propre liberté et de faire des paris audacieux comme celui de pouvoir ouvrir un théâtre qui ne vit que de son public. Et le théâtre privé de tout temps et depuis sa création et depuis bien avant qu'il n'existe le théâtre public, même bien avant la décentralisation, etc., le théâtre privé a créé de grands auteurs, a créé de grands textes, permis à des comédiens fabuleux et prodigieux de faire carrière et souvent à la fois dans le public, dans le privé, peu importe.
Le public répond-il présent ? La Comédie Odéon, il y a quelque temps, on avait échangé, Julien, vous disiez votre angoisse quand même que le public ait peur à nouveau de fréquenter des lieux publics. Est-ce qu'aujourd'hui, le public répond présent ici, mais aussi dans d'autres théâtres, puisque vous vous êtes fédéré, j'imagine que vous avez quand même un petit peu une lecture de ce qui se passe en région.
Alors, le public répond présent, le public ne répond pas présent comme on espérerait qu'il réponde présent. C'est-à-dire que, bien évidemment, on constate une baisse de fréquentation. Cependant, on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Cependant, il y a quand même des gens dans les salles. Et aussi, et pourquoi ? Parce que dans les théâtres, mais je sais que c'est aussi le cas dans les cinémas ou autres, on respecte des protocoles stricts. Les gens savent qu'ils peuvent voir des spectacles même dans des situations plus confortables qu'avant parce qu'ils se disent bien finalement le siège à côté de moi est libre, j'ai pu poser mon sac, ma veste, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça ce matin, c'est pour ça que j'en ris un peu. Mais effectivement dans des jauges réduites, alors effectivement pour nous c'est dur hein, parce qu'on a besoin de remplir nos salles, mais dans des jauges réduites le public passionné de théâtre répond les gens se sentent bien au théâtre, ça fait du bien aux gens. Maintenant, il faut quand même que le message passe, il faut que le bouche à oreille, qui est un peu notre seule et unique véritable publicité, fonctionne parce que on a besoin de plus de gens dans les salles. On a besoin de beaucoup plus de gens dans les salles parce que si les gens ne reviennent pas assez rapidement dans nos salles, ils vont être condamnés à jouer des petits spectacles. Ça va beaucoup impacter l'artistique, moins de personnes sur scène, moins de décors. Exercer notre métier en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Normalement, on a toujours un pied dans le jour de la représentation et un pied à dans 2 ans en train de prévoir, organiser, etc. Et là, en ce moment, on est incapable de se projeter quasiment même au lendemain. Voilà. Et donc, dire aux gens et au public que le simple fait de les voir le soir, en tout cas, nous permet d'être là le lendemain. Et ça, c'est merveilleux.
Vous avez concocté un programme pour le mois d'octobre, aussi pour le mois de novembre, qui va nous intéresser au plus haut point. On a déjà parlé de Philippe Cobert, bien sûr, à l'affiche jusqu'au 1er novembre. Mais il y a d'autres surprises, et notamment un espèce de fou chantant qu'on appelle Didier.
Voilà, donc nous avons Didier Super qui sera là et qui viendra pendant une semaine début novembre nous faire du bien, je pense, nous faire vraiment bien marrer et nous faire partager son impertinence qui va être pour nous un bel exutoire dans cette période où on ne comprend pas tout, hein, clairement, pleine de paradoxes, de contradictions. Donc voilà, ça va nous faire beaucoup de bien. Ensuite, au mois de novembre, nous allons créer une pièce avec Olivier Marchal qui s'appelle Frangin, une pièce écrite par Jacques Chambon. Olivier Marchal sera accompagné de Pasquale Dinka sur scène. Une vraie belle pièce, une vraie belle comédie dans laquelle on va rire mais aussi être beaucoup ému. C'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent après une longue séparation et les règlements de comptes familiaux, c'est quand même souvent sujet à des comédies un peu comme ça, amères, acides. Ça fait beaucoup penser à l'univers Bakri Jaoui notamment. Voilà, et donc on va avoir cette super pièce. On a Simon Astier qui vient ici créer Le Discours, une pièce de Fab Caro, enfin inspirée du roman, adaptée pardon, du roman de Fab Caro. Voilà, que les gens à Lyon connaissent bien. Fab Caro qui sera aussi à l'honneur au mois de novembre parce que nous aurons le spectacle Zai 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 Zai, une sorte de BD spectacle bruitage assez incroyable qui va venir 5 soirs ici en novembre. Et puis en décembre, nous aurons la nouvelle version de la comédie que nous avions créée l'année dernière, Famille pour tous et les enfants seront bien gardés. Voilà, qu'on a vraiment customisé et c'est devenu voilà, une pièce moi, que je trouve exceptionnelle. Et puis, l'événement pour nous de cette fin d'année, je sais que c'est un peu galvaudé parce que tout ce que j'ai dit avant, ce sont déjà des événements, mais quand même, c'est la création d'Intramuros, la nouvelle pièce d'Alexis Michalik. Après que nous ayons conquis 42 000 spectateurs avec Le Porteur d'Histoire, nous espérons bien en recevoir autant autour de la pièce Intramuros qui utilise les mêmes ressorts dans une histoire complètement différente. C'est un film sur scène, c'est une sorte de série palpitante qui va se dérouler sous nos yeux. Une grande évasion et je n'en dis pas plus, il faut absolument que les gens viennent voir ce spectacle.
On sera là, Julien Poncet, évidemment fidèle ici au poste et fidèle à votre théâtre. Merci de nous avoir reçus.
Merci beaucoup.
Hello Guillaume, c'est avec Zim que tu vas dialoguer cette semaine. On est ravis de vous recevoir tous les deux pour parler musique cette semaine. Avec son titre « Comment tu as fait ?», il interroge la figure du père, le sien, et celui qu'il est aujourd'hui. Mon Gédéon de la semaine devrait l'intéresser. Suspense, il faudra rester jusqu'au bout pour savoir de quoi il s'agit. Allez, trop parler déjà, je vous laisse tous les deux.
Bonjour Zim.
Bonjour.
Alors, je voulais absolument te faire venir ici à ce micro parce que je n'ai pas pu me rendre à tout bout de champ lors de la présentation de ton album qui vient de sortir, donc ton premier album. Je voulais que tu nous en parles un petit peu, comment cet album est né. Ça fait un moment que tu tournes, que tu fais des concerts et que tu as des titres, mais comment on arrive à finalement 14 titres sur un disque ?
Eh ben, c'est ce qu'on dit souvent, un premier album c'est le travail d'une vie. Donc 14 titres, en fait, y a le plus vieux titre date de 2012. Donc c'est déjà un vieux titre. En fait, je voulais pas le mettre au début, mais on m'a menacé de mort pour que je le mette. Donc j'ai pas eu le choix. Mais c'est pour ça qu'il y a 14 titres. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Aussi parce que j'avais déjà sorti un EP, mais c'était un EP qui était assez proche de ce que je pouvais proposer sur scène, c'est-à-dire du guitare contrebasse. Mm-hmm. Et là, j'avais envie de faire des titres qui aient une vraie existence tout seul, c'est-à-dire un titre qu'on écoute vraiment comme un vrai CD, quoi. Mmh. Et du coup, je savais pas faire des chansons pour un album, je savais pas, donc j'ai dû apprendre, j'ai dû acheter du matos, j'ai dû faire plein de choses, et c'est pour ça que ça m'a pris du temps.
D'accord, donc ça veut dire que tu as tout fait tout seul chez toi, les maquettes, voilà, et puis ensuite aller en studio pour enregistrer et avec d'autres musiciens, ou c'est toi qui fais tous les instruments ?
Alors, il y a d'autres musiciens qui sont... Et alors, déjà, il y a Rémi Udera, qui est mon contrebassiste, qui fait aussi du piano, donc il a quelques parties piano, et moi aussi. On fait les guitares, les voix, tout. Il y a d'autres musiciens qui sont invités, notamment du violoncelle ou de la trompette. Mais après, tout le reste, ouais, c'est moi et un peu Rémi qui avons bidouillé dans nos home studios pendant longtemps, que ce soit à la maison ou alors... l'avantage du home studio, c'est que tu peux tout mettre dans une valise et t'embarques tout ça en tournée. Donc, on a pas mal travaillé comme ça. C'est très artisanal.
D'accord. Comme le Gaël disait, tu as un titre qui tourne en ce moment sur YouTube. Tu as un clip sur un titre qui s'intitule « Comment t'as fait ?» Mmh. Donc, cette figure du père. Donc, tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui te touche là-dedans ? Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que c'est très autobiographique ou alors c'est complètement inventé ?
Non, c'est très autobiographique. Je ne sais pas faire de chansons ultra... En tout cas, elles sont mauvaises, celles que j'invente. Donc, non, c'est très autobiographique. Et c'est simplement la question qu'on se pose à l'heure de devenir père. En tout cas, c'est celle que je me suis posée moi. C'est-à-dire que quand tu deviens père, tu repenses à ton père au même âge et au même moment de sa vie, et se dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, quoi. Et comment les autres font, au final, j'aurais pu... Enfin, cette question, elle se pose pour tous les gens qui ont eu des enfants un jour ou qui veulent en avoir. Et donc, comment est venue cette chanson ? C'est pareil, ça a été très vite, quoi, à écrire.
Mais ça pourrait être une chanson un peu mélancolique, triste. En fait, elle est très, très, très sautillante, on va dire. Il y a un petit riff de guitare là au début. Tu chantes, tu fais des papapa au début. Donc, il y a une sorte de référence au papa, d'accord ?
Exactement.
Donc, pourquoi ce choix ?
Bah parce que je suis désespérément optimiste et je pense que on peut penser au futur sans être ultra dark non plus, surtout si on a un enfant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, c'est un peu trop tard pour être vraiment dépressif à mort. Et non, du coup, le sautillant, parce que c'est quand même du bonheur, quoi.
Ouais. Alors moi, j'ai écouté le disque avec attention et moi, j'aime beaucoup 2-3 titres. Enfin voilà, j'aime bien Petit Con, je trouve que celui-là, il est assez fort ce titre parce que tu dénonces. Enfin, je sens qu'il y a une expérience un petit peu professionnelle.
Total. Voilà. Mais parce que j'étais assistant d'éducation, on dit, attention. Hein. On dit assistant d'éducation dans un collège et notamment, j'ai passé 3 ans dans un collège à Valmy. Et donc, c'est de là qu'est tirée cette histoire. Ouais, c'est super expérience, hyper dur aussi, parce que c'est un collège qui s'est ghettoisé, parce que fuit par toutes les catégories socio-professionnelles qui en ont les moyens. Donc, on n'a que des gosses qui n'ont pas le choix d'être là.
Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire dans cette chanson à ces gosses, justement ?
Eh ben, à ces gosses, en fait, tu as envie de les gifler tous les jours. Sauf que quand tu connais leur histoire et quand tu vois leur quotidien, tu comprends, en fait. Donc, quand tu as envie de les gifler, t'as juste envie de lui dire t'es vraiment qu'un petit con. Et puis quand tu connais leur histoire et que tu comprends pourquoi ils te font chier, tu dis t'es vraiment un petit con, en fait.
Exactement. Et alors il y a un autre titre qui s'intitule 10 piges plus tard. Alors toi, dans 10 ans, tu te vois comment alors?
J'essaye pas de me projeter parce que sinon j'aurais pas fait le choix d'être musicien. Donc
surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, c'est clair. Non, dans 10 piges, je sais pas comment je sais. J'aurai un fils de 10 ans déjà, ça c'est une certitude. Franchement, je me pose pas trop la question.
Eh bien écoute, on va écouter ce titre qui parle plutôt de la paternité, qui est vraiment un très chouette titre avec un très chouette clip aussi, avec des enfants extraordinaires qui sont d'un naturel total. Donc on va écouter
Comment t'as fait. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Je veux devenir père et puis j'ai peur et puis je perds mes priorités, mon horizon, mes points de repère et je suis perdu. Au beau milieu de la mer, je navigue à vue, en plein désert. Je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté de ma vie. Je sais plus ce que j'attends, je connais plus mes envies. Faudra pas fuir, faudra qu'on soit unis, faudra construire petit à petit. Alors je repense à mon père, j'imagine ce qu'il s'est dit. Il avait mon âge quand j'ai débarqué dans sa vie. Est-ce qu'il était serein et confiant ou pas? Est-ce qu'il savait vraiment comment devenir papa? Comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi, oh, comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi. Dis-moi comment je fais pour qu'il soit pas trop con, qu'il éteigne la télé pour aller jouer au ballon, qu'il soit émerveillé sans devenir naïf, et qu'il aille gueuler de temps en temps dans les manifs, qu'il aime bien l'école pour se remplir la caboche, mais qu'il préfère se balader les mains dans les poches, qu'il fasse gueuler sa mère quand il reviendra à la maison, les cheveux pleins de terre et des trous dans le pantalon. Ouais, j'espère qu'il aura ses lubies de petit garçon, qu'il aimera le vélo, les dinosaures et les bonbons. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il apprenne tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour devenir papa? Comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi, oh, comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi. Mon père est un héros, faudra que je lui dise un jour. Pour lui c'est mission accomplie, aujourd'hui c'est mon tour. Comment mener ma barque à bon port? Bien élever un enfant, ça veut dire quoi d'abord? Faudra qu'il soit gentil garçon, mais pas trop. Qu'il ait du carafon sans passer pour un barjo. Qu'il ne joue pas au con avec les nanas. Qu'il évite les garçons, les gardes à vue, tout ça, tout là. Ouais, j'espère qu'il évitera les embrouilles, les pièges. Il aura honte de moi quand je le déposerai au collège. Je suis prêt à tout pour qu'il soit heureux sans tracas. J'espère aussi qu'un jour, il me demandera. Comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi. Comment t'as fait pour être père, papa? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Comment t'as fait pour être père, papa? Dis-moi. Comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as fait? Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas? Ce qu'il fallait faire ou pas? Ce qu'il fallait faire ou pas? Dis-moi.
Salut Gaëlle.
Salut Gaëlle.
Aujourd'hui, c'est Vinyl Mania que tu évoques, la dernière exposition signée par l'équipe du musée de l'imprimerie et de la création graphique, n'est-ce pas?
Exactement. Gros coup de cœur pour Vinyl Mania, les faces A et B d'une reconquête musicale. Exposition au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Disparu et revenu, le vinyle est fascinant. Pour les adultes ayant connu les 45 et 33 tours et même l'ancêtre, soit le 78 tours, apparu début XXe siècle, l'expérience de Vinyl Mania est d'une émouvante nostalgie, une véritable Madeleine de Proust. Et pour les toujours fans de vinyle et les diggers, ces fameux passionnés chercheurs de vinyle perdus, Vinyl Mania est une pépite recensant des acharnés de la galette comme eux. Pourquoi une exposition de vinyle au musée de l'imprimerie et de la communication graphique? Car Vinyl Mania est dédié à Vaughan Oliver, récemment mort, fin 2019. Joseph Beltante, directeur du musée, précise que le musée est justement aussi le lieu de la redécouverte de grands personnages. Vaughan Oliver, graphiste d'origine anglaise, était concepteur de pochettes au visuel iconique et avec des jeux typographiques. La pochette de Dolittle des Pixies, c'est lui, par exemple. Il a incroyablement marqué le graphisme autour des vinyles. Ses œuvres font d'ailleurs partie, excusez du peu, du fonds permanent du Victoria and Albert Museum à Londres. Vaughan Oliver ne disait pas « Je vais chez mon disquaire », mais « Le disquaire local est une galerie d'art pour moi. C'est une façon démocratique de découvrir l'art. » En France, 3,5 millions de vinyles ont été vendus en 2018. Le marché reste conséquent, Vinyle Mania vous raconte tout. Depuis les similitudes entre vinyle et imprimerie, à ce titre, attardez-vous devant la présentation de deux usines ateliers de pressage, la Record Industry de Harlem, aux Pays-Bas, où sont quand même pressés 50 000 vinyles par jour. Les coulisses de fabrication sont immortalisées dans les fascinantes photos d'Alastair Philip Wiper. La manufacture des vinyles en Haute-Savoie, plus proche de chez nous, spécialisée dans la conception de 33 tours pour les labels musicaux indépendants. Le studio Magma, basé à Lyon, est également évoqué. Studio de recherche autour du vinyle, il propose des ateliers avec le public au cours de l'exposition. Le parcours aborde plusieurs thématiques. Exemple du lien entre musique et graphisme. Retrouver l'histoire du logo, la voix de son maître, mais aussi l'impression des sillons et des labels, ces fameux centreurs au cœur des vinyles, aussi appelés macarons. Sachez que les premières vraies pochettes ont été créées par Alex Stenways pour Columbia Records en 1939. Étant fatigué de voir les vinyles dans des petites pochettes plastiques, ce graphiste, inspiré par le constructivisme russe, interviendra sur près de 2500 pochettes entre 1940 et 1973. Créer une pochette est puissant. On affirme définitivement une identité et une musique. Les Lyonnais reconnaîtront aussi l'intervention du graffeur Keza. Présente sur de nombreux murs de la Croix-Rousse avec des oiseaux qui s'évadent de vinyle, ces sculptures utilisent le matériau même du vinyle, qu'ils chauffent d'ailleurs parfois pour le modeler. Keza trouvant ce sujet poétique et moins connoté street art vandal, dixit ces termes. Le disque-objet est aussi abordé avec le vinyle Star Wars, le réveil de la force. Regardez bien ce vinyle. Lorsqu'il tourne, un hologramme 3D apparaît au-dessus du macaron, au centre donc. Cet hologramme est le TIE Fighter de Star Wars. On voit très bien les deux hexagones du vaisseau tourné. J'ai trouvé ça hypnotique. Les collectionneurs sont aussi cités via la collection de vinyles du légendaire DJ Frankie Knuckles. Au fait, question. Savez-vous combien de vinyles possède Laurent Garnier ? Environ 300 000. L'émotion du vinyle est aussi très palpable dans le projet photo et vidéo mené par Zoé Timers. En 2013, elle filme la silhouette de son père, atteint d'un cancer, au sein de la collection de 12 000 vinyles, lui demandant de choisir ses préférés, une aubaine pour se remémorer de poignants souvenirs. Nous sommes en 2020, année que nous n'oublierons pas, mais 2020 est aussi l'année de la bande dessinée. Ainsi, en partenariat avec Lyon BD Festival, Vinyl Mania expose la pochette rêvée de vinyle de 15 auteurs et autrices de BD. Enfin, 2020, c'est aussi Africa 2020, projet panafricain et pluridisciplinaire, entre autres axé sur l'innovation dans les arts. L'énergie musicale du continent africain est ainsi mise à l'honneur dans Vinyl Mania. N'oubliez pas de poursuivre la visite de l'exposition avec Vinyl Africa, installation qui a investi la place de l'art du Parc République. Plongée sonore et visuelle avec une évocation graphique des imprimés wax. Évasion en partenariat avec LPA, Lyon Parc Auto. 12 albums ont été sélectionnés, soit une playlist de 40 morceaux. Le choix musical a été confié à Sofa Records, disquaire à Lyon, spécialiste des musiques du monde. Pierre-Olivier Leclerc, disquaire de Sofa Records, a d'ailleurs confié que c'était une première peu banale que de constituer une playlist pour une exposition dans un parking. L'exposition Vinyl Mania est à voir jusqu'au 21 février 2021. Plus d'informations sur imprimerie.lyon.fr.
Merci beaucoup Gaël. Effectivement, nous sommes ici à la Comédie Odéon. Nous avons, allez, on va dire 150 mètres à faire pour être au parking République. Allez-y, mes chers auditeurs. C'est vrai que l'exposition immersive est super autour justement de ces vinyles et de l'Afrique. C'est absolument incroyable. On se retrouve juste après pour nos Gédéons. Place à nos Gédéons cette semaine. Qui veut commencer ? Gaël, avec deux L, bien sûr, ou Guillaume, avec un M ?
Je vais peut-être commencer, donc Guillaume avec deux L et un M. Et donc, moi, je voulais évoquer un artiste que j'aime beaucoup, il n'a pas forcément besoin de nous, mais c'est Dominique A, puisque Dominique A sort deux livres, enfin, pas tout à fait, un livre qu'il a écrit qui s'intitule « Fleurs plantées par Philippe », qu'il a écrit pendant le confinement pour rendre hommage à Philippe Pascal, qui était le chanteur d'un groupe mythique qui s'intitulait Marquis de Sade et qui est décédé en septembre dernier. Donc, c'est un tout petit livre qui est vraiment un livre très bien écrit, comme d'habitude, comme le fait Dominica. Vraiment, il a un style particulier. Il a déjà écrit des romans assez autobiographiques, mais là, il parle d'autrui et c'est vraiment très, très émouvant. Donc là, ça s'appelle « Fleurs plantées par Philippe » de Dominique Anet, le vrai nom de Dominica. Et puis un deuxième livre, qui est un livre d'entretien, qui s'intitule « Dominica, solide, entretien biographique avec Grégoire Laville ». Et dans ce bouquin-là, qui est une longue interview, il y a eu 18 heures d'entretien dans des cafés différents à Paris, et puis ailleurs, à Nantes aussi, puisque maintenant Dominique habite Nantes. Voilà, dans ces entretiens, on comprend un peu mieux ce que c'est qu'écrire, ce que c'est qu'artiste, ce que c'est que faire des tournées, pas forcément... voilà, cette volonté de faire des disques, mais surtout de montrer au public ce que l'on veut finalement montrer. C'est un petit peu bête ce que je dis, mais voilà, c'est un bouquin qui est passionnant. Si on apprécie Dominica, c'est vraiment un bouquin étonnant. C'est aux éditions Locus Solus. Il y a une préface de Rebecca Manzoni de France Inter et c'est vraiment un bouquin passionnant pour ceux qui veulent un peu plus en savoir sur Dominique et sa façon de créer, en fait, d'écrire ses chansons. Donc voilà, deux bouquins. Et puis peut-être, parce que c'est le hasard, mais en rentrant, je suis venu ici au Théâtre Comédie Odéon et je suis tombé sur le flyer du discours d'une pièce de théâtre, donc le discours de Fab Caro, qui est mis en scène et adapté par Simon Astier. C'est du 10 au 14 novembre, donc c'est très bientôt. Le discours, c'est pour moi le bouquin le plus hilarant que j'ai lu depuis une éternité, même si Fab Caro vient de sortir son nouveau bouquin qui s'intitule Broadway et qui, comme moi, Broadway part d'un postulat assez drôle, assez basique. Il a reçu le fameux courrier à 50 ans, le fameux courrier qui vous indique que vous devez aller faire votre coloscopie, enfin voilà, le cancer colorectal, voilà. Il se trouve que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, ce courrier, et donc évidemment ça fait écho, son bouquin est vraiment très très drôle, mais moi je vous invite à venir voir le discours, parce que le discours c'est son autre roman, et qui est vraiment à tomber par terre tellement c'est drôle, il n'y a pas une page, il y a des vannes dans toutes les pages, on s'y reconnaît, c'est très drôle, et moi j'ai très très hâte de voir la mise en scène de Simon Astier avec, la mise en scène de Catherine Schaub, d'accord, avec Simon Astier qui a adapté le texte de Fab Caro. Donc vraiment ça va être un moment hilarant, et je pense qu'on a vraiment besoin de moments hilarants en ce moment. À toi Gaëlle.
Mon Gédéon de la semaine sont les visites de l'Hôtel Dieu programmées les week-ends. La Cité internationale de la gastronomie a fermé le 6 juillet 2020 après 10 mois de fonctionnement. En attendant de voir quel projet va investir le lieu iconique de l'Hôtel Dieu, sachez, pour ceux ne l'ayant pas encore déjà fait, que vous pouvez visiter les lieux emblématiques de cet ancien hôpital, rénové et rouvert en avril 2018. Les samedis et dimanches, découvrez ainsi le dôme des 4 ans, les apothicaireries, la salle des archives et la salle du conseil. Citons juste la partie la plus ancienne de l'Hôtel Dieu, le dôme des 4 rangs, construit à partir de 1622. Dôme des 4 rangs, pourquoi ? Car les lits des patients étaient disposés en 4 rangées, organisées en forme de croix, afin de contrer toute éventuelle contagion. À voir sous le dôme des 4 rangs la monumentale œuvre de Vincent Braid, maître verrier. Sculpture installée comme un gigantesque lustre, elle s'intitule Fast Food, pour souligner le lien entre la santé et l'alimentation. Les immenses cuillères au nombre de 13 sont un clin d'œil à l'incroyable taux de guérison de l'époque. 13 patients sur 14 survivaient. Ces cuillères fonctionnent comme une métaphore, cuillère alimentaire certes, mais également cuillère mesure pour la prise de médicaments. Donc visite les samedis et dimanches de 10h à 19h via l'office du tourisme de la place Bellecour, réservation sur lyon-france.com.
Merci beaucoup de nous parler de ce beau bâtiment. On a tendance aujourd'hui à oublier que derrière les boutiques, les restaurants, il se cache aussi, bien sûr, un bâtiment emblématique de la ville de Lyon et surtout du soin que l'on apportait en fait aux patients. Cette semaine, moi j'avais envie d'en remettre une couche, comme on dit. J'ai de la suite dans les idées. La semaine dernière, je vous avais parlé de « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin, un premier roman très très réussi sur une figure paternelle émouvante. Je vous propose d'écouter son auteur évoquer son personnage.
C'est vrai que cette voix du père, elle s'est imposée à moi. Elle s'est imposée dès les premières pages en fait, du livre, cette première scène hein, où ce père regarde son fils jouer un dimanche matin. Et la voix du père m'a tout de suite plu. Ça peut paraître prétentieux de le dire, mais j'ai tout de suite aimé cette voix. Je me suis dit que j'allais continuer avec lui un petit peu. Et puis bon, finalement, le roman s'est fait ainsi avec la voix de ce père.
C'est le narrateur.
C'est effectivement le narrateur. Il observe ses deux fils grandir. Bon, c'est une famille qui va vivre un drame, c'est-à-dire que son épouse va succomber du cancer après une longue, longue maladie et il se trouve assez désemparé et va devoir s'occuper de l'éducation de ses deux enfants.
On est dans un contexte social particulier, dans une région de France particulière. Est-ce qu'il y a une résonance avec votre propre vie, votre propre existence ? On dit souvent que les romans sont un petit peu autobiographiques ou une part d'autobiographie.
Oui, il y a une petite part d'autobiographie, bien sûr, dans ce roman. Bon, cette région qui est la Lorraine, je la connais bien. C'est une région dans laquelle j'ai vécu 20 ans. Bon, c'est une région qui m'intéressait parce que c'est une région traversée de contradictions, c'est-à-dire que c'est une région qui connaît à la fois des succès, mais qui aussi connaît son lot d'échecs, hein, des entreprises qui se montent, mais qui vont refermer derrière. C'est une région aussi, je trouve, qui est intéressante dans la mesure où, pour moi, c'est une région éminemment accueillante, et en même temps, c'est une région qui peut être amenée à se replier sur elle-même.
C'était la totalité de l'interview, une seule adresse, liondemain.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.